VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Plus que 2 heures seulement avant le coup d'envoi du match d'ouverture de la Coupe du Monde de Football 2018 en Russie. Le Mondial 2018 débute à 15h temps universel au stade Loujnitsky de Moscou, complètement rénové pour l'occasion. À l'affiche, Russie, Arabie Saoudite, deux des équipes parmi les moins cotées des 32 engagés dans la compétition. Mais peu importe, la planète foot est mobilisée, Yacouba Ouédraogo.
La succession de l'Allemagne vainqueur du Brésil 2014 est ouverte et l'heureux gagnant sera connu le 15 juillet à l'issue de la finale. Le match d'ouverture opposera tout à l'heure le pays hôte, la Russie, à l'Arabie Saoudite. Au total, 32 équipes sont en lice, dont 5 africaines, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, le Nigeria et le Sénégal. Les Lions de la Teranga sont logés dans le groupe H avec la Pologne, la Colombie et le Japon. Après 3 matchs nuls contre l'Ouzbékistan 1-1, la Bosnie 0-0 et le Luxembourg 0-0 également, le Sénégal a perdu face à la Croatie 1-2 avant de remporter son dernier match de préparation 2-0 devant la Corée du Sud, sa seule victoire dans ses matchs amicaux. Pas de quoi entamer le moral du sélectionneur qui se dit confiant. Aliou Cissé.
Nous venons ici avec vraiment beaucoup de plaisir et beaucoup de fierté pour représenter notre pays. Essayer de faire le maximum pour nous. Je crois que pour un footballeur professionnel, ce qui est important, c'est de jouer une Coupe du Monde. Pour un entraîneur, la chose la plus importante, c'est coacher une équipe qui joue une Coupe du Monde. Donc c'est une fierté pour nous. Nous allons rencontrer 31 équipes, grandes équipes. Le Sénégal aussi fait partie de ces grandes équipes. On a des arguments à faire valoir.
Aliou Cissé s'est exprimé au micro d'Amdine Nassi sur place à Kaluga, au QG des Lions de la Teranga. Bien avant le Sénégal qui ouvre son bal face à la Pologne le 19 juin, deux formations africaines, le Maroc et l'Égypte, entreront en lice dès demain vendredi, respectivement contre l'Iran et l'Uruguay. Les Lions de l'Atlas sont logés dans le groupe B avec l'Espagne, le Portugal et l'Iran. La plus grosse performance du Maroc au Mondial, on le rappelle, remonte à 1986 où il a été 8e de finaliste. Malgré la présence des monstres espagnols et portugais dans leur groupe, les Marocains se disent prêts. Écoutons leur capitaine, Mehdi Benarsia.
Pour nous, ce n'était pas des matchs amicaux, c'était plus des matchs de préparation à cette Coupe du Monde. Donc voilà, il fallait montrer qu'on était en train de travailler correctement. Un stage qui, pour l'instant, se passe très bien. Beaucoup de travail, les résultats ont été positifs aussi dans l'ensemble. Donc, comme je l'ai dit, voilà, il y a plein de bonnes choses à retenir, des choses encore à améliorer. Mais je pense qu'on peut aller en Russie en étant confiant et en sachant qu'on est capable de faire quelque chose.
Mehdi Benarsia, capitaine des Lions de l'Atlas.
Merci Yacouba Ouédraogo et que le meilleur gagne.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Conflit au Soudan du Sud, les États-Unis ont demandé à Nairobi de mieux lutter contre les investissements au Kenya. Des membres de l'élite militaire et gouvernementale sud-soudanaise accusés de profiter de la guerre civile dans leur pays pour s'enrichir. Le point avec Marie Benson.
Selon les États-Unis, l'élite sud-soudanaise a profité de la guerre civile pour investir de l'argent blanchi dans le secteur immobilier kényan en toute impunité. Le Trésor américain a déclaré qu'il y aura de lourdes conséquences financières pour quiconque profiterait des violations des droits de l'homme et de la corruption pour s'enrichir illégalement. La fondation américaine The Century a accusé l'élite politico-militaire sud-soudanaise de s'être enrichie en luttant pour s'approprier les ressources naturelles du pays, notamment le pétrole. Madame Mandelker, représentante du gouvernement américain en déplacement au Kenya, a conseillé aux autorités de Nairobi d'interdire l'entrée du territoire aux personnalités sud-soudanaises qui sont placées sur une liste noire.
République démocratique du Congo, 82 personnes ont été tuées et 76 autres enlevées ou kidnappées au courant du mois de mai dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu dans l'est du pays. Les détails avec Bagassi Koura.
82 morts violentes, 76 enlèvements et 35 affrontements ont été enregistrés en mai dans le Nord Kivu et le Sud Kivu, selon un rapport sur la sécurité par l'ONG Human Rights Watch et le groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York. Ce document établit la cartographie des pires violences dans ces deux provinces. Le 20 mai, des hommes armés non identifiés ont abattu 10 civils dans le village de Mangboko sur la route entre Beni et Ouacha dans le nord du Nord Kivu. Ce rapport note que malgré le déploiement massif des forces de sécurité dans la région de Beni, il a été enregistré une augmentation des abus contre les civils. En mai, 8 civils ont été tués sur le seul territoire de Beni par des militaires congolais. 4 autres ont été grièvement blessés. Les provinces du nord et du sud de Kivu subissent les violences meurtrières de groupes armés nationaux et étrangers depuis plus de 20 ans.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Violence en République centrafricaine, la CPI, la Cour pénale internationale de La Haye, a annoncé le lancement d'un programme d'assistance de 2 millions d'euros pour les victimes centrafricaines des miliciens de l'ex-vice-président de la RDC, Jean-Pierre Bemba. L'ancien chef de guerre et homme politique congolais est maintenant en liberté provisoire après son acquittement par la CPI des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par son groupe, le Mouvement de Libération du Congo, MLC, à Bangui, entre octobre 2002 et mars 2003. La responsable adjointe de la justice internationale de la FIDH, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, Delphine Carlens, se penche sur le verdict en appel de l'affaire Bemba et la question de la protection des sources dans son procès.
C'est surtout le verdict en lui-même, l'acquittement en lui-même qui est un choc. Nous avons ces derniers jours exprimé notre étonnement par rapport à l'interprétation des trois juges de la majorité de la Chambre d'appel, l'interprétation du statut de la CPI et notamment l'interprétation assez restrictive de la responsabilité du supérieur hiérarchique et du chef militaire. Il me semble que sa sécurité et sa protection est peut-être moins en jeu en Belgique. On reste particulièrement vigilant par contre par rapport à la sécurité et la protection de tous les défenseurs des droits humains qui ont pu documenter tous les crimes commis par les troupes du MLC.
Delphine Carlens, responsable adjointe de la justice internationale de la FIDH à Paris. Cameroun, une campagne de vaccination de 2 millions de têtes de bétail est en cours depuis mercredi dans l'extrême nord du pays. Le secteur d'élevage est très affecté par les attaques du groupe djihadiste nigérian Boko Haram, Lionel Gaïna.
À cause des attaques de Boko Haram, les opérations de vaccination du bétail ont été suspendues et cette campagne contre la peste est une première depuis 2 ans. Selon Marcus Bruderman, chef du CICR pour l'Afrique centrale, l'opération va durer 1 mois, se traduira par la vaccination et le déparasitage 1 million de têtes de chèvres et moutons. 12 000 ménages vivant de l'élevage pourront ainsi préserver leurs moyens de subsistance. D'après une enquête du ministère camerounais de l'élevage, les pertes sont estimées à près de 55 milliards de francs CFA en mai 2016 et quelques 8,5 milliards de francs pour la pêche. L'étude précise que depuis 2012, Boko Haram a volé ou tué plus de 29 000 bovins, 19 000 petits ruminants. Aussi, les attaques de djihadistes ont provoqué la fermeture de 21 marchés à bétail.
Afrique de l'Ouest maintenant, en Haute-Guinée, affrontements récurrents entre populations locales. Le plus souvent, l'accès à la terre pour la recherche de l'or ou la culture de cajou est l'une des causes de conflits. Le journaliste Amadou Thiam, joint à Cancan dans le nord de la Guinée, situe ici les enjeux des frictions intercommunautaires.
Avec la politique agricole de l'État, il y a eu la relance de la culture de cajou. Il faut voir, le prix d'un kilo de cajou avant, en Guinée, était aux environs de 2000, 3000. Mais actuellement, il faut voir, depuis l'année dernière, on parle de 6000, 7000, 8000, des fois, voire même 10000. Alors, les gens, un peu partout, des terres qui n'étaient pas utilisées avant. Alors, actuellement, les gens se sont orientés vers les cultures d'exploitation. Et cela crée des problèmes entre les communautés. C'est les mêmes problèmes qui se visent lorsqu'il s'agit aussi des terres que les gens réclament pour l'exploitation minière. C'est le même problème. Mais vous allez voir que ces problèmes-là sont souvent très reculants dans la région qu'on appelle en Guinée la Haute-Guinée, surtout. Surtout, c'est en Haute-Guinée où on entend beaucoup de problèmes de ce genre liés aux terres agricoles et liés pour l'exploitation minière.
Amadou Thiam, journaliste à Cancan dans le nord de la Guinée. Et vous terminez au Nigeria, au moins 10 personnes tuées dans des attaques de villages dans le nord du pays en proie à la violence des bandes armées. La police et les autorités locales font état ce jeudi d'incursions de présumés voleurs de bétail hier contre 4 villages du district de Bionin Magadji dans l'état de Zamfara, apparemment en représailles après le meurtre de l'un des leurs par des milices locales. Selon le porte-parole de la police de l'état de Zamfara, Mohamed Cheou, les assaillants ont tiré sur la population locale avant de s'enfuir dans la forêt de Rougou dans l'état voisin de Katsina. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Écoute ça.